Bonjour Emmanuel et bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Dis-moi, j'ai remarqué tout à l'heure que tu as un magnifique morandi.
Oui, je l'aime beaucoup. Les objets baignent dans une lumière de souvenirs, cependant ils sont peints avec une précision et une profondeur qui les rend presque tangibles. On peut dire qu'ici l'artiste n'a rien laissé au hasard, tu ne trouves pas?
Les Nouveaux Chemins vous accompagnent du lundi au vendredi de 10h à 10h53 et à toute heure du jour et de la nuit en téléchargement. Chaque semaine, nous vous proposons un thème que nous arpentons en empruntant les sentiers de la philosophie, du cinéma et de la littérature. Et chaque jour, à 10h50, vous retrouvez les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie pour une plongée dans l'actualité éditoriale philosophique. Amarcord, un petit mot bizarre, un carillon, une cabriole phonétique, un son cabalistique et même la marque d'un apéritif, pourquoi pas. N'importe quoi hormis l'irritante association « je me souviens ». Et pourtant, Amarcord est tissé avec les fragments de la mémoire de Fellini, mémoire individuelle du réalisateur et mémoire collective d'une Italie spectatrice de la montée du fascisme dans les années 30. Sorti en 1973, le film est un mélange de burlesque et de souvenirs. Il oscille entre Rabelais, Marcel Pagnol et Pérec, et c'est sans doute le film au cinéma où on voit le plus de fessiers, d'arrière-train, de cul, sous toutes les formes, mais surtout les plus volumineuses. Avec nous aujourd'hui pour nous en parler et clore cette semaine consacrée au cinéma de Fellini, j'ai le grand plaisir d'accueillir l'écrivain et critique de cinéma Jean-Max Méjean. Bonjour à vous.
Bonjour.
Ne me demandez pas de faire le sacrifice de parler en français parce que j'ai beaucoup de difficultés à m'exprimer dans le langage qui n'est pas le mien. En faisant comme ça, vous faites les questions en français et je réponds en italien.
Dans un certain sens, cette anecdotique et autobiographique, je me suis inspiré de la ville où je suis né parce que je la connaissais mieux que les autres.
Est-ce que je vous choque, Federico Fellini, si je dis que ce film est un peu le film du magicien que vous auriez aimé être et que c'est celui du caricaturiste que vous avez été?
Non, je n'ai pas bien compris la question. C'est le film du magicien que j'ai voulu être, mais je suis magicien.
Voilà.
Je ne crois pas qu'il y ait un point de vue particulièrement caricatural. Je crois que les choses sont comme ça.
È giusta di sale?
Sì, nonno.
E te non mangi?
No.
Che cosa avete fatto a vostra madre?
Niente.
Niente, babbo, niente.
Non m'hanno fatto niente loro.
Ma viva la Madonna, uno s'alza la mattina alle 4, lavora tutto il giorno come un somaro e quando vieni a casa per mangiare un pezzo di pane ti trovi davanti ad alfasi storti così!
Comme ça, tu ne la verras plus, ma gueule!
Nous!
Madame, il est temps d'ôter la lessiveuse du feu.
Ouais.
Oh, est-ce que ça peut peser lourd?
On peut savoir ce que tu as.
Mais je n'ai rien.
Alors pourquoi tu manges pas?
Parce que j'ai pas envie de manger.
Et pourquoi t'as pas envie?
Parce que j'ai pas envie.
Mais qui ça peut être, ça?
Mais est-ce que je sais?
Je vais ouvrir, monsieur Aurelio.
Eh bien oui, va, va. Mais qu'est-ce que monsieur là
ce Buranger, c'est le cousin de l'archevêque. Ah, mais qu'est-ce que vous avez à être affamé comme ça? On dirait que je vous nourris pas.
Il est bon, ce Sangiovese, hein?
Ah oui, tiens, je prendrai bien un petit verre.
Vous êtes allé où ça hier soir, hein?
Moi? Au cinéma, papa.
Ah oui, c'était bien ce film, hein?
Il y avait les Indiens, et puis les Comanches se sont mis à tirer des flèches, ils en ont tué je ne sais combien.
Oui,
oh, c'était chouette. Ils ont tué.
Mais moi, qu'est-ce que tu
fais? Qu'est-ce que tu
fais?
C'est que je
porte.
Mais
je
n'ai rien
fait. Viens ici, misérable. Si je t'attrape, je t'arrache.
Aurélio, arrête.
Mais qu'est-ce qu'il a fait?
Qu'est-ce qu'il a fait? Je veux savoir ce qu'il a fait. Mais je vais te le montrer ce qu'il a fait.
Qu'est-ce qu'il a bien fait?
Ça, c'est le chapeau de monsieur Biondi. Il est allé au cinéma hier. Ça tient sans si ça tient. Oh, et tu sais ce que c'est? Figure-toi que ton espèce de canaille de fils s'est mis à pisser du balcon et que dessous se trouvait Monsieur Biondi. Tant te lire, ça m'a coûté, tu entends?
C'est pas lui qui a fait ça, c'est un camarade d'école.
T'es toujours pareil, t'es toujours à défendre ce gibier de potence. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre, deux assassins. Mon bon sang de potence!
Vous êtes fait mal?
Qu'est-ce que tu fais par terre?
Tout y est, Jean-Max Méjean, dans cette scène de repas familial qui arrive assez vite hein, dans ce film très très étrange. Pour le coup, on dit toujours que Fellini procède par fragments. Là c'est le cas, hein. Il n'y a pas vraiment de lien d'une scène à l'autre, si ce n'est l'aventure de ce jeune garçon, Tita, qui ici est à table avec sa famille et qui se fait soit engueuler parce qu'il mange pas assez, soit engueuler parce qu'il mange trop, parce qu'il a fait des bêtises la nuit précédente. C'est un joyeux bordel, très 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 festif et qui donne le ton de ce film un peu particulier.
Oui, c'est un film particulier. Vous parliez de fragments, mais la plupart des films de Fellini sont fragmentaires comme ça. On l'a vu par exemple pour le Satyricon, puisque le livre de Petron, on n'a retrouvé que des fragments. Mais c'est un peu la même chose pour Roma, c'est pour 8 et demi qui est un rêve. La Dolce Vita aussi, ce sont des chroniques romaines. Donc là, après, puisque le film est réalisé un an après Roma, donc en 73, comme vous l'avez précisé, Roma a été réalisé en 72. C'est une période très féconde dans l'œuvre de Fellini. Et vous savez qu'il était tombé malade, très gravement malade. D'ailleurs, il le raconte dans « L'ami à Rimini », dont on a pris des extraits pour le livre « Faire un film ». Et en fait, cette maladie qui était une pleurésie, je crois, l'a fait se rapprocher, comme il était aussi également en analyse jungienne, de son enfance. Alors, ce qu'il veut nous montrer, c'est une saison, en fait, parce que le film commence, je ne sais pas si vous vous souvenez, par ce qu'on appelle, en italien, on appelle les manines, c'est-à-dire ces espèces de pollen blanc, comme de la neige. Donc, c'est le printemps. Et il va y avoir toute une série à travers ces quatre saisons. Et le film va après le mariage de la Gradisque, va se terminer avec une nouvelle pluie de manine. Et ça sera le deuxième printemps. Voilà. Ce qui lui donne un côté à la fois mélancolique. Il y a une grande mélancolie chez Fellini. Et donc ici, vous parliez, donc, il y avait l'entretien. Ça m'a beaucoup ému d'entendre encore la voix de Fellini, bien sûr.
Et c'était en 74 sur France Culture et c'est très drôle parce qu'on lui dit le magicien que vous auriez voulu être, il dit mais excusez-moi j'ai pas compris, je suis magicien.
Un magicien. Et d'ailleurs c'est quelque chose que par exemple Woody Allen qui est un peu le fils spirituel de Fellini reprend parce que il aime bien jouer avec la magie et tout. Donc là dans moi je pense qu'à Marcord, donc on a beaucoup parler d'un Marcord, et Fellini, là, vous lui aviez tiré les vers du nez, il avouait un petit peu que c'était autobiographique, mais il n'aimait pas.
Il n'aime pas le dire.
Il n'aime pas, parce que il passe sa vie à mentir. Donc, dans ce film-là, il y a un peu de vrai, beaucoup de faux. Même Rimini ne s'appelle pas Rimini, il s'appelle Il Borgo, le bourg.
Qui est la ville où il a grandi.
C'est la ville, mais c'est pas, si vous voulez, ça fait penser à Rimini, que je connais très bien, mais en fait, tout est en décor. Sauf les
comme
scènes
souvent,
sur la plage.
Ouais.
Comme après la Dolce Vita, il n'a plus jamais tourné qu'en décor, bien qu'il vienne du néo-réalisme. D'ailleurs, il y a une anecdote, il a dit à la Dolce Vita qu'il s'était réfugié dans un studio parce que tournant Via Veneto, tout le monde passait, lui disait « Mais Federico, pourquoi tu mets ta caméra là? Pourquoi tu devrais la mettre ici ?» Tu devrais... Donc il a dit « Mais c'est pas vrai, ça c'est encore une légende fellinienne. » Et donc, pour en revenir à Marcord, donc en romagnol, puisqu'il est le co-scénariste Tonino Guerra et romagnol comme Fellini, et donc à Marcord, c'est « Mi ricordo », « Je me souviens ». Mais en fait, c'est une formule magique, comme dans 8 et demi, Asa, Nisi, Maza. Je ne sais pas si vous vous souvenez du passage.
On en parlait hier de 8 et demi.
Ah oui, vous en avez donc parlé. Et donc, c'est une des scènes capitales du cinéma, je dirais, de Fellini, parce que c'est celle qui nous ouvre l'âme, l'anima, l'âme. Asa, Nisi, Maza, en javanais des enfants, ça veut dire anima. Et Amarcord, ami, ricordo, je me souviens. Mais en fait... son père, je pense, n'a jamais mis un gramophone dans le clocher de l'église qui jouait l'international. La famille, là, puisqu'on est parti sur cette scène de famille, vous évoquez Pagnol, bien sûr, surtout qu'avec la traduction française, on se croit presque à Marseille. Donc c'est le tempérament méditerranéen, très sanguin. Le père est en colère, mange son chapeau parce que le fils, la veille, est allé au cinéma et a pissé justement sur le chapeau. Il y a toujours des histoires de chapeau chez Fellini. Dans la Dolce Vita, la scène avec le chapeau du père. Et En fait, c'est un événement qui est pas dramatique, mais ça prend des proportions presque de tragédie, mais en même temps tragicomique. Et le référent fondamental qu'on oublie toujours avec Fellini, c'est Chaplin. Giulietta Masin dans La Strada, c'est une, et même dans Cabiria, c'est une petite Chaplin.
Et pourtant, qu'est-ce qu'il femelle. Parle dans ce film, et notamment dans la scène de famille, de repas de famille qu'on a entendu, on est loin d'être dans le cinéma muet.
Il parle, mais en fait, non, mais je veux dire, c'est par rapport à la chorégraphie. Ce que Fellini, d'ailleurs, il a fait jouer des danseurs, ce qu'il aurait aimé, c'est être chorégraphe. Et beaucoup de scènes, justement, dans Amarcord, sont des scènes qui sont calculées au millimètre près, notamment la promenade sur le front de mer. Tout est calculé pour que les gens passent à un certain moment. On voit que c'est comme une chorégraphie. Et si on observe bien cette scène de famille, elle est calculée comme la séquence de boxe avec Charlie Chaplin, bon, qui est muette. Vous connaissez cette fameuse séquence qui est chorégraphiée. Et là, c'est pareil. Vous avez le père qui tourne autour de la table, qui attrape son chapeau, le gosse qui part, qui va dans le jardin, une sorte de jeu quand le père lui court derrière, etc. Donc, effectivement, c'est un hommage perpétuel à Chaplin qui est non dit, en fait.
Mais monsieur Joseph, c'est encore le vin qui fait le moins de mal. Ici, vous buvez de l'eau de citerne, et savez-vous ce qu'il y a dedans ?
De l'eau du ciel. Oui, de l'eau distillée par le soleil.
Et je vous parie qu'on y trouve aussi une dizaine d'araignées noires.
Deux ou trois lézards, et toute une famille de crapauds. Hein.
L'eau de citerne, c'est de l'essence de pipi de crapaud.
Oui, n'empêche que cet alcool pour ta santé.
Oh, Joseph. Joseph. Tu m'escagasses, hein.
Le temps passe et il fait tourner la roue de la vie comme l'eau celle des moulins.
Alors on reste à table, Jean-Max Méjean, et cette fois-ci à la table de Pagnol dans Le Château de ma mère, le film d'Yves Robert, adapté du roman évidemment de Marcel Pagnol. Hormis la référence à l'eau qui fait couler l'eau des moulins, hein, et l'eau qui est très présente dans toute l'œuvre de Fellini, mais aussi dans le film Amarcord, on y entend la même tonalité à la fois d'un repas festif joyeux et mélancolique, comme le laissent entendre les quelques notes de piano qui terminent l'extrait. Et peut-être qu'on peut comprendre la scène initiale du repas familial dans Amarcord comme étant, disons, du Pagnol auquel on aurait ajouté à la fois du Chaplin par la chorégraphie, une dimension rabelaisienne avec l'importance accordée à tout ce qui est un peu sale, hein, le pipi,
le caca, l'orgie,
hein, et une dimension, disons, plus absurde aussi, tu vois, quelque chose qui ressemblerait peut-être même à Beckett, quelque chose de qui se sert des moments les plus triviaux, les plus ordinaires, pour en extraire quelque chose de quasiment monstrueux et comique.
Comique, oui, parce qu'en fait, Fellini vient de la caricature. Bon, il a exercé beaucoup de métiers, mais bon, c'est un grand dessinateur, c'était un co-scénariste, enfin, dans le cinéma, et il a été également journaliste au Marc Aurelio, qui est le journal qui, sous le fascisme, correspond de nos jours à peu près au Canard Enchaîné. Donc, il a écrit des feuilletons radiophoniques pour la radio, puisque c'est là qu'il a connu la voix de Giulietta Masin, qui interprétait le rôle de Paline, et il a voulu la rencontrer parce qu'il est tombé amoureux de cette voix, et c'est comme ça qu'il a rencontré Giulietta Masin, entre parenthèses, qui à son tour lui a présenté Marcello Mastroianni. Donc, de la caricature, il y en a tout le long dans Marcord, parce qu'en fait, quand il était petit, et même adolescent, il adorait ce qu'on appelle les fiumetti, c'est-à-dire les bandes dessinées. Et Mussolini avait fait interdire les bandes dessinées qui venaient d'Amérique, comme trop impérialistes. Donc, il s'est intéressé aux fiumetti, il en a même créé lui-même. Donc, ce qu'il voulait retrouver dans Amarcord, c'est à la fois les couleurs des fiumetti. Donc, vous avez remarqué que ce sont des couleurs assez... contrasté le rouge de la robe de la gradisque, c'est vraiment un vrai rouge. Le feu est vraiment couleur de feu. La scène chez la tabacaille, tout est très très coloré, comme il voulait, comme des vignettes de bande dessinée. Et en même temps, tout est agrandi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la salle de classe, elle est immense. La place où il y a les feux au début du printemps, les feux de bois, elle paraît immense. Donc pour lui, il voulait dire par là, je me souviens de quand j'étais enfant. Et quand on est enfant, on voit le monde toujours plus grand. Et puisque vous parliez, vous m'avez mis sur la voie, le cul des femmes sont plus gros. Parce que quand on est tout petit, et en même temps, c'est une façon de leur rendre un hommage. Hommage à la maternité, hommage au sexe, hommage au désir.
Oui, pas simplement à la maternité quand même, parce que cette façon de montrer les culs. Alors bon, parlons-en, puisqu'effectivement, j'ai abordé le sujet dès le départ. Il y a des scènes assez troublantes, pas simplement dans la manière dont ces arrière-trains sont filmés, qui occupent tout l'écran, et à plusieurs reprises, c'est parce que c'est répétitif que ça en devient comique, mais il y a une scène absolument... indescriptible, mais je vous mets au défi d'arriver à la décrire quand même pour ceux de nos auditeurs qui n'ont pas vu le film, leur donner envie, oui.
Oui, alors la scène de la marchande de tabac, en italien la tabaccaia, est très 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 intéressante, notamment sur un point qui importe beaucoup à Fellini. Vous savez que Fellini, je vous l'ai dit, passait son temps à mentir, à faire croire qu'il était autre que ce qu'il était vraiment. Donc, il se faisait passer pour quelqu'un d'inculte qui n'avait pas suivi l'école. Alors, en fait, il voulait d'ailleurs adapter la Divine Comédie, Leopardi, bien sûr, parce qu'on en parle dans Amarcord. Et je sais pas si la séquence quand Tita va chez la tabaccaia, c'est le soir, elle a à moitié fermé le rideau de fer, il passe sous prétexte, parce qu'il a désir, évidemment, comme il désire... Enfin, il est amoureux de la gradisca et il désire la marchande de tabac. Et donc, il demande à passer pour, soi-disant, acheter une cigarette à une lire.
C'est jeune homme, hein, il a quoi, 13-14 ans?
Et oui, en fait, c'est le problème, c'est ça, c'est qu'il paraît beaucoup plus grand que son âge. L'acteur, qui s'appelle d'ailleurs... Bruno Zanin fait plus grand que son âge. Mais bon, enfin, après, c'est un conte. Donc, oui, en fait, il est prépubère. Hein, il est censé avoir 13-14 ans. Et il y a sur le mur une publicité que Fellini a fait réaliser par Rinaldo Gelling, qui, en même temps que Danilo Donati, sont les créateurs des décors et des costumes. Donc, Gelling, c'est lui qui va réaliser, même pour Casanova, toutes les peintures... imitation, donc ils se sont connus pendant le fascisme, hein, à Rome, quand Fellini est arrivé, qui crevait la faim, et il va devenir son peintre, et c'était un homme de grand talent, donc il a peint comme pour une marque de cigarette qui s'appellerait Phosphoril, et on voit le portrait de profil de Dante. Donc Dante, dantesque, qui est aussi l'enfer mais le paradis. Et la fameuse scène que vous me demandez de décrire, ça commence sur un ton badin, puisqu'il parle de poids, de mesurer. Donc comme elle est en train de peser des sacs qui contiennent du tabac, je suppose, et il lui dit « je vais essayer de vous soulever pour la peser ». Alors qu'évidemment, elle est très grosse, énorme. Et donc, c'est une actrice fétiche de Fellini. Elle s'appelle Marie Antonietta Belluzzi, on va la voir aussi dans Roma. Et elle est... légère comme une plume.
Bah,
Il arrive à la soulever. Mais dans ce soulèvement, qui est un peu quelque chose de mythologique, hein, c'est comme le géant percé ou bien Zeus enlevant une terrienne, eh bien, il y a leur corps qui se frotte et donc elle va lui donner son sein à téter. Donc là, il y a quelque chose de la maternité, ça pourrait être une Pietà de la Renaissance, mais ça tourne très vite à quelque chose qui pourrait être érotique. Mais en fait, comme lui, au lieu de téter comme un bébé, il souffle comme dans une trompette, ça devient complètement caricatural. Ça devient comme dans un film de grotesque. Si Charlie Chaplin avait eu, à l'époque, il n'y avait pas la même censure, aurait pu réaliser une scène comme ça, parce qu'elle est purement visuelle. Voilà. Et donc, elle le chasse. Voilà. Et c'est cette scène-là qui se passe sur un fond de Dante.
Dans le cadre du marché commun agricole, j'aimerais vous entretenir d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur.
Les fesses.
Qu'est-ce que vous racontez là?
Les fesses.
Êtes-vous donc tombé si bas que ça? Où ça?
Sur les fesses.
Je sais pas si vous avez remarqué, on dirait que depuis quelques années, tous dont on entend parler, c'est...
Les fesses.
Il y en a des rondes, il y en a des plates, il y en a des fermes, il y en a des flasques.
Les fesses.
Il y Y'en a des grosses, des petites carrées, y'en a pour s'asseoir, d'autres pour s'amuser.
Les fesses.
Y'en a des basses, des déprimées, et y'en a de la haute société.
Les fesses.
Et y'en a des vraies, d'un regard, et y'en a qui sont à éviter. Mais qu'on les aime pas, si elle avait bon, on serait pas là.
Les fesses.
Bon, ben voilà une chose de réglée, hein. Si on n'en parle pas de ça au moins une fois par jour, il n'y a rien à tirer de ces gaillards-là. Passons à un autre sujet.
Les fesses.
Vous n'allez tout même pas recommencer.
Les fesses.
Vous ne seriez pas obsédé des fois?
Non.
Alors où est-ce qu'on s'envole?
Vers les fesses.
Y a-t-il rien qu'à ça que vous pensez?
Oui.
Y a-t-il pas autre chose que vous aimez?
Non.
De quoi est-ce qu'on pourrait parler?
Les fesses.
Il y en a des droites, il y en a des larges, il y en a même deux qui sont en marge.
Les fesses.
Et c'est sur France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, que vous écoutez Les Fesses, la chanson des frères Jacques à l'occasion d'une émission sur Amarcord, le film de Fellini sorti en 73 et qui vient ponctuer cette série d'émissions consacrée à Fellini. Et c'est le critique de cinéma Jean-Max Méjean qui vient en parler avec nous en studio aujourd'hui. Jean-Max Méjean qui est l'auteur de Fellini, un rêve, une vie, publié aux éditions du Cerf, et qui a dirigé un ouvrage collectif intitulé Fellini Chita aux éditions de la Transparence.
Papa!
Bonjour, moi!
Oddio! Essayez de se lever!
Ma che cosa dici? Cosa strilla?
Non ho capito. Lo zio è salito sull'albero!
Voglio una donna! Voglio una donna!
Fiston, où est-ce que j'irai t'en prendre une?
Oh, nom de Dieu!
Fiston, Fiston!
Et l'oncle Théo, regardez où il est allé se cacher!
Fiston, je veux une femme!
Il est là-haut, papa!
C'est d'où j'ai dit?
Tita! Tonton, il y a des nids.
Allons, Théo, descends de là, tu risques de faire du mal. Mais qu'est-ce que tu fais? Va prendre une échelle, toi.
Théo, descends, tu vois que ton frère Aurélio se
Théo, faites pas la mauvaise tête, voyons.
Non, je veux une femme. Il faut dire que c'est un besoin plus que normal, hein, à 42 ans.
Ouais, mais il va dégringoler.
Miguino va aller le chercher.
Ah, ah voilà. Ouh.
Touché, tonton, en pleine poire, bravo. Qu'est-ce que t'as mis? Fais voir. Masque, j'ai un tort, hein. Attends, je monte. On rapportera les petits oiseaux.
Mais pourquoi tu veux nous tuer?
Mais si tu me jettes des pierres, ça ira mal, hein. Oui.
Je veux une femme.
Non, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire?
Papa, regarde. Maman, les voilà.
Ah, bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il est monté sur l'arbre.
Oh, la religieuse, c'est une naine. Elle va monter le chercher.
Du calme, laisse-la.
Oh, tu n'es pas un peu fou? Descends de là. Avec moi, ça ne prend pas, ces façons.
Mince, ça y est, maman. Elle le fait descendre. Elle a réussi, maman. Il est tout content.
C'est une des scènes les plus drôles du film, je crois, Jean-Max Méjean.
Oui.
L'oncle de Tita, Théo, monte dans un arbre, refuse d'y descendre et passe son temps à crier. Et ça dure longtemps, hein, la scène dure très longtemps. Je veux une femme.
Oui, alors c'est avec ce qu'on disait précédemment, c'est cet obscur objet du désir. Hein. C'est-à-dire que cet homme-là est enfermé, puisque la scène, vous l'avez un peu raccourcie, et après...
Oui, déjà, là, elle durait 2 minutes, on pouvait pas la diffuser en entier, elle fait quasiment 10 minutes.
Hein. Le père a fait venir les infirmiers, et c'est une religieuse naine qui va avoir assez d'autorité pour le faire descendre. Et en fait, c'est que, au début de la scène, on lui demande pourquoi il a pris des pierres dans sa poche. Ben, il disait que c'était parce que c'est joli, c'est des pierres. Ça rappelle Gelsomine dans La Strada, oui, qui, ce petit caillou a une importance sur Terre. Et ces pierres vont lui servir à les jeter sur les gens qui veulent le faire descendre. Alors, c'est une des scènes les plus drôles. Et en même temps, parce qu'on est quand même confronté à la folie, même si elle est présentée de façon caricaturale. Il y a quand même, pour Fellini, quelque chose qui nous montre de l'ordre du malheur inhérent. Parce que cet homme-là a 42 ans, il ne peut pas avoir de relation. Il est enfermé dans un... C'est même pas un hôpital psychiatrique, c'est un truc de l'époque, les années 30, tenu par des bonnes sœurs, assez sévère, Toujours la présence de la religion chez Fellini, hein, parce qu'il a été élevé comme Almodovar chez des frères salésiens qui sont réputés pour leur, on le voit dans 8 et demi, mm-hmm. pour quand même, c'est une confrérie assez rude, et on le voit aussi à travers l'école qu'il nous décrit. Donc, ce passage-là est très drôle, effectivement, il est dirigé comme un ballet puisque l'arbre a été construit, c'est un faux arbre, tout est en décor naturel, la ferme est vraie, mais l'arbre a été construit par Fellini de façon à pouvoir être bien agencé, de façon à ce qu'il y ait un trou qu'on voit bien, l'oncle juché, parce qu'en plus il est juché tout à fait
oui,
en
bah
haut.
Oui, selon
en
les
haut
plans, parfois
l'arbre.
On ne le voit pas du tout, on voit juste un arbre qui parle.
Voilà, un arbre qui parle, et puis de temps en temps, on le voit selon les axes. Et on a mis une échelle pour pouvoir y accéder, parce que pour essayer de le déloger de là. Donc il y a aussi la folie, et en même temps ce désir fou, l'amour fou, qui c'est une sorte de cri primal.
Mais c'est pour ça que cette scène est si réussie, c'est qu'elle touche aussi, c'est pas simplement qu'elle est drôle, c'est qu'on entend la détresse de cet oncle jugé
en même temps,
fou
ça,
qui
personnellement, désire. Ça m'angoisse cette scène, parce qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, puisque il est fou, il est enfermé. Et lui, quand il dit « je veux une femme », ce n'est pas simplement parce qu'il veut faire l'amour, c'est parce qu'il veut être, en fait, comme tout le monde. Il veut l'amour, il veut s'ouvrir au monde, en fait. C'est comme quand les gosses regardent les culs des paysannes qui partent sur la place de Rimini.
« Mauvais que roba !» Non si vede proprio niente, oh. Ah, ma io mi attacco qui al muretto. Soltanto nel 22 c'è stata una nebbia così.
Depuis 1922, il n'y a pas eu un brouillard pareil. On n'y voit vraiment rien du tout. Oh, 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 doucement, arrêtez, je suis là, il y a un homme ici. Espèce de... Mais où c'est que je suis? J'ai l'impression d'être nulle part. Ma foi, si la mort c'est comme ça, eh ben c'est pas joli. Tout disparaît. Les gens, les arbres, les petits oiseaux, le vin. Et tu l'as dans le cul! Ah, Timo! Je me suis perdu, je trouve plus la maison. Où c'est que je suis?
Mais comment ça, où vous êtes? Mais vous êtes devant chez vous. Hein? C'est là.
Ah, merci, Tino.
Yop.
Oh. Ah, eh ben, où vas-tu dans ce brouillard?
À l'école. Au revoir, Pépé.
Regardez-moi ça.
L'eau est la matière de la mort, belle et fidèle. L'eau seule peut dormir en gardant la beauté. L'eau seule peut mourir immobile en gardant ses reflets. En réfléchissant le visage du rêveur, fidèle au grand souvenir, à l'ombre unique, l'eau donne la beauté à toutes les ombres. Elle remet en vie tous les souvenirs. Ainsi prend naissance une sorte de narcissisme délégué et récurrent qui donne la beauté à tous ceux que nous avons aimés. L'homme se mire dans son passé, toute image est pour lui un souvenir. Ensuite, quand le miroir des eaux se ternit, quand le souvenir s'estompe, s'éloigne, s'étouffe, l'eau devient silencieuse. Après quelques ruisseaux joyeux tout près de leur source, les rivières bientôt se taisent, leur voix baisse bien vite, progressivement du murmure au silence. Ce murmure, lui-même, qui animait leur vie confuse, est étrange. Il est comme étranger à l'onde qui fuit. Si quelqu'un ou quelque chose parle à la surface, c'est un vent ou un écho. Quelques arbres du bord qui se confient des plaintes, c'est un fantôme qui souffle tout bas. De chaque côté de cette rivière au lit vaseux s'étend, à une distance de plusieurs milles, un pâle désert de gigantesques nénuphars. Ils soupirent l'un vers l'autre dans cette solitude et tendent vers le ciel leurs longs coups de spectre et hochent de côté et d'autre leurs têtes sempiternelles. Et il sort d'eux un murmure confus qui ressemble à celui d'un torrent souterrain. Et ils soupirent l'un vers l'autre.
Ce texte magnifique interprété par le comédien Georges Clès est écrit par Gaston Bachelard, Jean-Max Méjean, c'est un extrait de L'eau et les rêves. Bachelard qui, je dois dire, une fois qu'on y prête attention, semble être présent dans toute l'œuvre de Fellini, notamment par l'importance accordée à l'eau. On parlait de 8,5 hier et l'eau, Guido, le personnage de 8,5, va dans une station thermale et un rapport à l'eau qui traverse tout le film. Et dans Amarcord, c'est aussi très présent, cette scène du grand-père dans le brouillard qui est bouleversante, hein, que nous avons entendue. Le grand-père qui est perdu dans le brouillard, qui ne sait plus où il habite, qui se rend compte à la fin qu'il est juste devant chez lui, semble mettre en scène ce que Bachelard décrit dans le texte, hein, ce rapport à l'eau et au vent, comme un miroir dans lequel l'homme se mire dans son passé et toute image est pour lui un souvenir, écrit Bachelard. Et ça renvoie aussi à la fin du film, à une scène où là on est vraiment sur l'eau, sur la mer, et toute cette rêverie bachelardienne fonctionne à merveille dans ce film, c'en est troublant. Hein.
Oui, c'est un bon choix d'avoir pris Gaston Bachelard, évidemment. L'eau et les rêves, mais il y a deux sortes de types d'eau chez Bachelard. Il y a les eaux vives, mm-hmm. les eaux qui génèrent, les eaux qui apportent la vie, les torrents de montagne, voilà, la pluie, et les eaux mortes, comme le Styx, par exemple, qui est dans la mythologie grecque, et les eaux croupissantes, les marées dont il parle. Donc là, dans ce texte qui est sublime, Bachelard, en fait, c'est très important que vous le citiez parce que il a écrit une psychanalyse élémentiste, donc à base des quatre éléments, l'air, la terre, l'eau et le feu. Et Fellini était... Bachelard s'est inspiré de Jung et Fellini était un grand Jungien puisqu'il a suivi une thérapie psychanalytique jungienne. Il a fait une analyse jungienne. Donc la différence, on n'a pas le temps d'en parler, entre Freud et Jung, mais c'est que là, il y a eu un clash entre Freud et Jung, pour le faire très vite, mm-hmm. par rapport au fait que Jung n'a pas tout réduit à la sexualité. C'est pas simplement le complexe d'Œdipe, le désir, le petit garçon qui désire faire l'amour avec sa mère. Il y a une dimension qui est beaucoup plus, on pourrait dire, quasiment mystique, en tout cas mythique, chez Jung, qui prend en compte toute la nature qui nous entoure et qui est très importante. Donc, le grand-père perdu dans le brouillard, en fait, il est pas très loin, mais comme on y voit goutte, il est devant chez lui, mais il se croit. Et c'est un peu la métaphore de ce pays sous le fascisme qui n'y voit plus rien. Mais par contre, l'enfant va sortir après lui parce que on l'a entendu, dans le morceau. On lui dit mais tu es tout prêt, vous êtes devant chez vous. Son petit-fils sort, le frère de Tita, et lui va se diriger dans le noir comme s'il y voyait. Et est-ce que c'est pas aussi le fait de dire que peut-être la jeunesse est un espoir, les adultes sont perdus nel buio, comme disent les Italiens, c'est-à-dire dans cette
brouillard là, ouais.
ce crachin. Et on ne peut pas l'entendre là, mais le petit enfant va croiser un bœuf, le bœuf apis, c'est-à-dire le bœuf avec les cornes lyres, qui est typique de la vallée du Pô et qui représente quelque chose d'ancré, de solide, c'est-à-dire la nature mais à l'état brut. Et donc l'eau se décline dans Amarcord sur toutes ses formes, mais ainsi que le feu, d'ailleurs dans le feu du printemps, là où on brûle tout le bois, les meubles, mais également elle traverse. Alors la neige, c'est de l'eau, le labyrinthe de glace que l'on voit sur la place, c'est de l'eau mais solidifié. On a également...
Il y a une scène très belle, juste disons-le, puisque ça évoque la neige et les éléments tels que les décrit Bachelard, hein, à la fin, donc vers la fin.
Le passage du bateau.
Quand la place est recouverte de neige,
de neige, de labyrinthe,
et qu'apparaît un pan, soudain, oui, l'animal, le pan.
Voilà, je dis qu'avec l'apparition du bœuf, là, que l'on voit, avec les cornes lyres, l'apparition du pan, c'est quelque chose qui vous laisse sans voix, parce qu'il est comme une fontaine.
Qui dure à peine quelques secondes et on n'en sait pas plus.
Non, il s'est échappé du château du comte, et il est venu leur faire la roue, comme on dit, c'est-à-dire il est venu se montrer. Et les enfants voulaient l'attraper pour le plumer, le manger, je ne sais pas trop quoi, pour s'amuser, mais en fait, ils sont... fasciné, stupéfait, pétrifié presque. Non, je pensais que vous faisiez allusion aussi au passage du paquebot Rex, c'est-à-dire le paquebot qui a été créé par le régime et que les gens prennent un soir des embarcations pour le voir passer.
En fait, c'est filmé de manière incroyable. Ici, le paquebot traverse l'écran, il n'est jamais complètement droit. Et on a la rencontre entre le feu, les lumières du paquebot et l'eau.
Et l'eau. Et en même temps, quand on sait que tout ça a été fait en décor, hein, c'est dans la grande fontaine de Cinecittà qui n'existe plus. Mais c'était une maquette. Moi, j'ai eu l'honneur de rencontrer Fellini et d'assister au tournage. Mais beaucoup plus tard, c'était la Città delle Donne. Et de voir comment, quand on lui disait qu'il aurait voulu être magicien, mais c'est, pour moi, c'est un magicien, parce que arriver à recréer dans des décors, donner une vie à ces histoires-là, c'est fabuleux.
Alors, vous disiez qu'on pouvait aussi interpréter le brouillard qui recouvre le grand-père comme étant une métaphore aussi de l'état dans lequel se trouvait l'Italie au moment du fascisme. Écoutons Fellini en parler.
Quando siamo oppressi, soffocati da idee convenzionali, da dittature, siano politiche o religiose,
quand on a reçu des idées conventionnelles sur la dictature, sur la religion, sur la politique, etc., on est oppressé par les réalités de la vie. Alors, la réalité nous apparaît différente.
La realtà ci appare indubbiamente deformata, ci appare una realtà goffa, avvilita, mortificata.
Votre définition du fascisme?
Fascisme, vous savez, je ne suis pas intéressé à raconter dans mes films parce que je n'ai pas la force, probablement, ni la volonté, ni la stature, ni la culture. Qu'est-ce qui m'a intéressé dans mes films? Ce n'est pas les fascismes politiques, mais les fascismes psychologiques, émotionnels, émotifs. Les fascismes vus. Je continue en italien. Il fascismo visto come appunto questa deformazione della realtà, questa...
Come una deformazione della realtà.
Sì, deformazione della realtà.
J'ai l'impression que fascisme et adolescence continuent à être, dans une certaine mesure, des étapes permanentes de notre vie en Italie. L'adolescence, celle de notre vie individuelle. Le fascisme, celle de notre vie nationale. Nous avons tendance à rester d'éternels enfants, à nous décharger de nos responsabilités sur les autres, à vivre avec la confortable sensation qu'il y a quelqu'un qui pense pour nous. Tantôt c'est la mamme, tantôt le père, tantôt le maire, ou le duce, ou la madone, ou l'évêque. En somme, toujours les autres. Entre-temps, on a d'autres libertés que celle de cultiver des rêves ridicules, le rêve du cinéma américain ou celui du harem oriental. Ces mythes, toujours semblables et monstrueusement inactuels, me paraissent aujourd'hui le plus grave instrument de conditionnement de l'Italien moyen. Il semble que cela remonte bien avant le fascisme, que la responsabilité de cet arrêt au stade de l'enfance incombe à l'Église catholique. En vivant sous cette sorte de cloche, chacun tente à développer non pas des caractéristiques individuelles, mais des traits pathologiques. C'est le sens précis de la scène de la visite du fédéral.
Les 90
99% de la population sont inscrits au parti. 4000 fils de la Louve, 1200 filles, 3000 jeunes
garçons. Ça devient plus de 30 000 cœurs, mais qui forment un seul cœur fasciste. Pourtant, il faut accélérer les
temps. C'est merveilleux, cet enthousiasme qui nous rend à la fois jeunes et vieux. Jeunes parce que le fascisme est véritablement rajeuni grâce à nos idéaux lumineux.
Et moi, Mussolini, il en a, je vous le dis. Il a une paire de couilles comme ça.
Alors même quand on parle de Fellini, on en revient au burlesque le plus trivial et le plus drôle, je dois dire. Alors, Fellini, dans l'archive qu'on a entendu toujours en 1974, disait vouloir parler du fascisme psychologique, et pas seulement historique. Pourtant, dans l'extrait que l'on vient d'entendre d'Amarcord, et c'est vrai que d'Amarcord, le fascisme est quand même très présent, les scènes qui mettent en scène hein, ce rapport-là au fascisme dure longtemps et sont très importantes, prennent en compte aussi la dimension historique événementielle du fascisme. C'est pas simplement comment le jeune enfant Tita va vivre ce fascisme, c'est comment il est advenu dans cette ville à ce moment-là, Jean-Max Méjean.
Oui, tout à fait. Et moi, je pense au film qu'un des amis de Fellini a réalisé en 1977, c'est Une journée particulière, des Torres Scola. Parce que c'est un petit peu la même situation. Et Torres Scola nous raconte l'histoire d'un homme et une femme qui sont enfermés dans un appartement alors que c'est le jour de la visite d'Hitler à Mussolini. Et là, on montre le père de Tita qui est dont la femme l'a enfermé dans la maison parce qu'il est, on ne sait pas trop s'il est anarchiste ou communiste ou les deux, mais il est un des rares du village puisque c'est lui qui va mettre le gramophone avec l'Internationale quelques scènes plus tard. Il est enfermé alors que la façon de traiter chez Ettore Scola, c'est qu'on ne voit pas, on est simplement dans un huis clos où il y aura Sofia Loren et Marcello Mastroianni. Et là, on est en plein dans cette visite qui est présentée de façon burlesque, puisque les sont présentés comme des clowns. Ils courent, ils chantent des chansons, et il y a des chansons qui sont à la fois complètement, avec des paroles complètement naïves. Et je le rejoins quand il dit que le fascisme, comme l'Église d'ailleurs, et même toutes les religions, auraient tendance à essayer d'enfermer les gens dans une sorte d'enfance, mais pas l'enfance dans ce cas-là de merveilleux, d'ouvert à la vie ou quelque chose qui découvre la vie, mais plutôt quelque chose qui fait que nous sommes pris en charge. Alors il le dit très bien, hein, je crois que c'est pas la peine d'en rajouter, on est pris en charge par la MAM en Italie, mais dans tous les pays du monde, je pense, hein. On est pris en charge par l'armée, on est pris en charge par le président ou par le fascisme, par l'école, par le professeur. Donc les gens, je crois qu'ils aiment bien à la fois être pris en charge, c'est-à-dire gérés, parce qu'on peut pas de soucis, peuvent que s'amuser, regarder leur smartphone, mais je pense que la société, là, on est en train de vivre dans un fascisme qui dit pas son nom, mais je pense que on est presque au même point de ce qui se passait.
Bah, si on en fait une métaphore, c'est sûr qu'on peut l'appliquer à d'autres situations. Le fascisme dont parlait Fellini dans ce film et là, pour le coup, était bien réel. Mais ce qui frappe dans le texte qu'on a entendu, qui était un entretien que Federico Fellini a donné à Valerio Riva sur Amarcord, justement, c'était publié en 73 dans la revue L'Espresso, c'est qu'il dit oui, effectivement, il est confortable de s'en remettre à tantôt à la mamma, tantôt au père, tantôt au mère, au duce, à la madone. Mais en même temps, dans ces cas-là, on n'a pas d'autre liberté que celle de cultiver des rêves ridicules. Et le rêve du cinéma américain, celui du harem oriental, mais c'est exactement les rêves de Fellini.
Oui, oui.
C'est quand même ce qu'il met en œuvre dans 8 et demi. Le harem est présent dans 8 et demi. Mais ses rêves ridicules, il n'arrête pas de parler de ses rêves.
Oui, mais en fait, ce harem, là, quand il nous le montre, ouais. C'est quand même du deuxième ou troisième, voire du quatrième degré. Je ne pense pas que pour lui, ce soit le rêve d'avoir toutes ces femmes à disposition. Il s'en moque.
Ça, à la limite,
parce que c'est Bissain, le marchand de cacahuètes et tout ça, qui fait croire qu'il a couché avec toutes ces femmes au grand hôtel de Rimini. Mais en fait, chez Fellini, on est tout le temps dans la dérision. En plus, ce qui m'étonne, c'est que pour quelqu'un qui détestait donner des entretiens, il disait qu'il avait horreur de ça, il fuyait les journalistes. Je ne connais pas un réalisateur qui ait autant donné d'entretiens dans sa vie.
Et il est toujours paradoxal dans ses entretiens. C'est-à-dire qu'il semble toujours dire une chose et son inverse. Et toujours contredire ce qu'il fait dans ses films.
Tout à fait. Et il est perpétuellement dans le mensonge, mais au sens magique du terme. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, en fait, qui était d'une grande pudeur. Et justement, c'est pas... j'ai entendu dire une fois, ça m'a choqué, ce n'est pas un sentimental. Fellini, c'est un intellectuel, c'est un cérébral. Donc quand il nous montre des scènes qui nous font presque pleurer, les scènes avec la gradisque et tout ça, il y a toujours le pas de côté qui fait que nous sommes à la limite de, On est entre la tragédie, la comédie, le burlesque et le, à la limite, le, la tragédie au sens grec du terme, avec le fatum, le destin auquel on ne peut pas échapper.
Vous pensez qu'il y a un déterminisme dans les personnages féliniens ?
Je pense que oui, un déterminisme qui n'est certainement pas voulu, mais dans la mesure où il les inscrit dans la vie, c'est-à-dire que dans la vie, on sait tous que nous sommes condamnés à mourir, à ne pas connaître l'amour, à être sans cesse à la recherche de cet obscur objet du désir. Et la femme est un continent noir aussi, disait Freud. Et là, chez Fellini, c'est frappant. La Gradisque, à la fin, se marie avec un carabinier. Donc elle fait
présentez-nous la Gradisque quand même pour ceux qui...
Alors, la Gradisque a été interprétée par Magali Noël, évidemment. Elle est sublime. Magali Noël, on lui a mis un maquillage pour qu'elle ait l'air un peu paysanne, parce qu'en fait, elle est coiffeuse. Hein, elle est chez le barbier, le coiffeur du bourg, El Borgo. Et elle est le fantasme de tout le monde. Et en fait, on l'appelle la Gradisque parce qu'un jour, on l'a envoyée, comme elle est très belle, très sexy, etc. Quand est arrivé un prince au Grand Hôtel, on l'a envoyée peut-être pas directement coucher avec lui, mais enfin, elle, ce qu'elle a compris, c'est qu'elle s'est déshabillée, elle s'est mise, et elle a dit prenez ce cadeau, Gradisque, acceptez. Voilà, et du coup, on l'a appelée Gradisque, qui veut dire veuillez agréer, quoi, voilà. Voilà. Et donc, la Gradisque est l'amour secret de Tita, puisqu'il y a cette sublime scène dans le cinéma,
cinéma, oui.
Où à l'époque, on pouvait fumer d'ailleurs. Donc, elle est toute seule dans le cinéma et Tita...
Lui tourne tour, change de place.
Voilà, change de place, récemment. Et à un moment donné, il lui met la main sur le genou dans le noir, parce qu'ils sont que deux dans la salle, en fait. Et elle lui dit calmement, comme ça, en le regardant méprisant, « Tu cherches quelque chose ?» Mais c'est... Tout est dit, là, dans ce... En fait, il cherche l'amour, quoi, mais elle, c'est... À la fois, c'est gentil, sa façon de lui répondre, et à la fois, ça l'exclut, quoi. Donc, pour un adolescent, c'est terrible.
Merci beaucoup, Jean-Max Méjean, d'être venu nous parler d'Amarcord aujourd'hui.
On en parlerait des heures, mais...
Je suis d'accord. To be continued, comme disent les Anglais. Je renvoie, pour continuer, peut-être cette réflexion que vous avez suscitée à vos ouvrages. Fellini, un rêve, une vie qu'on trouve aux éditions du Cerf. Et puis un ouvrage collectif intitulé Fellini Chita, qu'on trouve aux éditions de la Transparence.
Non è ancora primavera, ma di sicuro non tarderà. Vedo già la sua bandiera, la sua fanfara, la sento già. Finalmente le manine arrivano. E la fine dell'inverno annunciano. Come un sogno che si avvera, la primavera ritornerà. Marcord, volevo scappar via. Lei capì e mi fermò. Se una donna è femmina capisce che c'è in te la natura duplice di un maschio e di un bebè, ti amerà perciò di più e noi ti vogliamo bene come sei.
Écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Bosna-Savoie. Bonjour à vous, Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Dernier pas aujourd'hui dans l'anthologie consacrée à l'autre individualisme, anthologie présentée et coordonnée par Alain Laurent et disponible aux éditions des Belles Lettres. L'individualité et la liberté vécue. Lorsqu'on utilise le mot individualité, on se réfère à toute une gamme de significations. Mais si on s'en saisit les unes après les autres, comme on épluche les peaux successives d'un oignon, on finit par en atteindre la plus évidente et pourtant la plus cachée signification, celle que véhicule le langage quotidien. Or, lorsqu'on parle couramment d'un individu, ne désigne-t-on pas une personne qui a évolué dans un environnement exempt de contraintes et de pressions pour développer ses propres critères d'appréciation des gens et des événements ? Si le 19e siècle a vu à la fois émerger l'individualisme comme courant de pensée et comme notion, elle l'a aussi vu devenir l'ennemi à abattre. Cible de tous les maux, démocratiques, éthiques ou moraux, à gauche comme à droite, il est devenu la pathologie moderne par excellence. Au XXe siècle, on trouve pourtant certains penseurs pour le défendre, comme par exemple le philosophe José Ortega y Gasset, tout comme certains écrivains comme John Dos Passos, dont j'ai lu un extrait d'une conférence qu'il a tenue en 1956. Dos Passos et Ortega y Gasset incarnent d'ailleurs deux manières de se positionner par rapport à l'héritage individualiste. Quand le premier, dans le contexte de la guerre froide et sur le sol américain, veut raviver la grande tradition individualiste, voulant revenir à l'essence d'une liberté vécue, le second, l'européen, plaide quant à lui pour une figure de l'individualiste qui pense hors des traditions et avec sa propre raison. Tant et aussi longtemps que dure l'empire de la tradition, nous dit Ortega y Gasset, chaque homme demeure prisonnier de l'existence collective et il ne fait rien par lui-même. Avec ou sans tradition, les deux soulignent en tout cas l'urgence à revenir à une pensée affranchie des autres, c'est-à-dire qui n'est pas assujettie aux autres, au conformisme rampant. Et c'est là qu'il est ironique de voir que quand on désigne l'individualisme comme la cause de nos sociétés de masse, il peut en fait se révéler le meilleur antidote. Et je rappelle le titre de cette anthologie dont j'ai parlé toute cette semaine, c'est « L'autre individualisme », c'est présenté par Alain Laurent et c'est bien sûr disponible aux belles lettres.
Merci Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin, ainsi que cette semaine consacrée à Federico Fellini, une semaine que vous pouvez réécouter en ligne sur le site des nouveaux chemins. Vous pouvez la réécouter en ligne mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez à l'heure de votre choix. Rendez-vous également sur nos pages Facebook et Twitter où les Nouveaux Chemins mettent en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendent vos remarques et commentaires. Cette semaine sur Fellini touche à sa fin, mais pas celle des Nouveaux Chemins, puisqu'on se retrouve demain pour les Chemins du Vendredi, actualité philosophique comme toutes les semaines. Et bien demain, ce sera Géraldine Mosna-Savoie qui recevra Ali Ben Makhlouf pour une conversation autour de la conversation comme manière de vivre. C'est le titre de son dernier livre paru chez Albin Michel. J'en profite pour vous annoncer notre partenariat avec Philosophie Magazine qui propose son dernier numéro, celui de novembre 2016, autour du thème suivant, la démocratie, ça devrait être quoi ? Un dossier garanti sans candidat pour réinventer la politique, nous promettons, avec un cahier central consacré, lui, à Nietzsche, « Deviens ce que tu es » par Dorian Lastor, qu'on a reçu ici même, et Paolo Diorio. Restez à l'écoute, à 11h, vous retrouverez Florian Delorme pour son émission Culture Monde, mais tout de suite sur France Culture, c'est l'heure de votre feuilleton quotidien, La Vie Moderne.